Bonjour Laurent Wolf.
Bonjour.
Nous arrivons au dernier épisode de votre vie à peu près. Hier, à la fin du quatrième épisode, vous me dites, ah, mais je vous ai pas parlé de mon retour à la rationalité. Je dis, attendez, je sais pas où on en est. J'ai dû louper une marche d'escalier dans mon bel esprit d'escalier que vous avez aussi, Laurent Wolf. Mais vous aviez envie de nous raconter aussi un épisode de votre vie assez épiphanique, assez important pour
Oui,
le
oui,
reste.
absolument. C'est le retour à l'irrationalité, pas le
Ah, le
retour.
retour à l'irrationalité,
Voilà.
bien sûr.
Alors, si vous voulez, moi, j'étais quand même un type élevé dans le rationalisme, des Lumières, etc. Mais j'avais l'impression que j'étais corseté par ce rationalisme, et je voyais bien qu'il se produisait des phénomènes qui n'étaient pas interprétables par la raison. Alors il y a toutes sortes de voies pour accéder à ces phénomènes, mais lorsque j'étais dans l'Oise, dans près de Chantilly, en train d'apprendre la peinture, il m'est venu à l'idée, je sais pas trop comment, mais je pense que c'est parce que ma sœur aînée s'était mise à dessiner des cartes de tarot sous l'influence d'un groupe d'amis qui gravitaient eux-mêmes autour du surréalisme. Elle s'était mise à faire ça, puis en la voyant faire, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Elle s'était mise à faire du tarot divinatoire, hein, ce qu'on appelle du tarot divinatoire.
Donc on tire les cartes et
On
puis
tire
ça
les
nous
cartes, et
raconte un peu le
voilà.
futur.
Absolument, ça raconte le futur et ça raconte beaucoup le présent aussi, à vrai dire. Mais toujours est-il que je me suis dit, mais ça tient, c'est extraordinairement intéressant. Je commençais de mon côté à faire des recherches sur ces cartes et sur ce système divinatoire, la façon dont il fonctionne. Et je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est que ça a beaucoup de rapport avec la peinture, parce qu'il y a une iconographie
Bien
des
sûr,
cartes
puissante.
qui correspond à l'iconographie de l'histoire de l'art. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il se produisait des phénomènes assez curieux. Et donc, j'ai beaucoup travaillé. Hein, on va passer rapidement parce que on a d'autres histoires à raconter. Mais l'intérêt, c'était finalement de trouver un pont entre l'exercice de la raison, hein, de la déduction ou de l'induction, et puis le surgissement de forces imprévisibles, peu organisables, et donc avec les tarots, j'avais trouvé. Et donc j'étais assez bon, hein, pour le tarot divinatoire.
Vous le pratiquez encore?
Je le pratique plus du tout. J'ai pratiqué ça pendant 2 ans, assez régulièrement. Je travaillais 4-5 heures par jour. J'ai fait ça avec sérieux, hein. Mais je fais tout ce que je fais avec sérieux, comme ça, je suis un peu maniaque. Et donc j'ai fait ça avec sérieux. Puis un jour arrive chez moi, dans cette maison dans l'Oise, un Sénégalais, un Africain, qui est un type absolument sensationnel, qui voilà. Puis on parle, et puis qui était chef de village au Sénégal, etc. Et je sais pas pourquoi, il y avait une copine qui me dit, ah, est-ce que ça marche avec les Africains? Vous voyez, c'est le genre de
Oh mon
procédé,
Dieu, ouais.
le genre de phrase qu'il faut pas dire dans la vie.
Non.
C'était pas du tout politiquement correct. Enfin, toujours est-il qu'il dit, ah oui, tu tires les cartes, c'est intéressant. Et je lui tire les cartes. Et là, je sens que ça tourne mal, quoi. Je sens
Pour
que là, tout...
lui.
Non, non,
Ah
je
non?
sens... Non, tout était juste, hein. C'était magique, hein. C'était magique, là. Tout d'un coup, c'était 5 sur 5. Et donc, il me regarde avec un air bizarre. Et je comprends que ça marche trop bien, quoi. Et je me suis rendu compte que ça marchait tellement bien que ça pouvait devenir ma vie. Et je dirais que le fait que c'était un Africain était important parce que c'est quelqu'un qui baigne dans une culture
De
de
marabout,
l'irrationnel du
voilà, c'est
marabout,
ça, ouais.
du fétiche. Et je me suis dit, est-ce que je veux pencher de ce côté-là ou pas? Et j'ai dit non. Et donc j'ai remisé mes cartes dans une valise, et dans une malle, une vieille malle, qui est la malle que mon père avait quand il était à l'armée suisse pendant la mobilisation de la Deuxième Guerre mondiale. La malle est toujours chez moi, et les cartes sont toujours à l'intérieur de cette malle, mais
Elles dorment.
elles n'en sortiront plus.
Laurent Wolf, on est resté hier dans ces années magnifiques où vous commencez à exposer. Vous êtes non plus un sociologue, mais un artiste. Vous osez le dire haut et fort. Et cette situation va durer une vingtaine d'années. Vous allez vivre de votre art. Alors, j'imagine qu'on pourrait passer un sacré moment à détailler cette vie. Mais comme il y a aussi tout l'autre aspect qui nous intéresse, c'est-à-dire que lorsque vous devenez journaliste, lorsque vous devenez enfin, chroniqueur sportif puis critique d'art, et ce moment où vous allez rebasculer dans l'art lorsque vous empoignez de nouveau le crayon dès 2009, vous recommencez à dessiner, cette fois-ci en noir-blanc et plus avec des pinceaux pour faire de la peinture avec des couleurs. Vous me disiez hier, voilà, il y a la crise de 1990. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie?
Alors, ce qui se passe dans ma vie, la première chose, il y a plusieurs choses qui se passent dans une séquence assez rapide. La première chose, c'est que fin 85, j'ai l'impression que je m'enferme dans cette problématique, que je maîtrise trop bien les choses. Et j'avais une peinture qui était basée sur un nombre assez restreint de couleurs, assez harmonieuse.
Dans ces roses rouges comme ça.
Voilà, dans les roses rouges. C'était début 85. Je me dis, il faut que je prenne le risque de la couleur. Ça, c'est la première chose qui se pose. La deuxième chose qui se produit à ce moment-là, c'est que j'avais un grand projet d'exposition avec une série de 20 tableaux d'un mètre sur un mètre que j'avais tous peints ensemble et qui formaient une image coordonnée de 5 mètres sur 4. Je devais exposer ces 20 tableaux dans une galerie, comme la galerie n'était pas conçue de telle manière qu'on puisse mettre un objet de 5 mètres sur 4. On avait décidé d'éditer l'image résultante de ces 20 tableaux sous la forme d'une grande affiche. Voilà. Et tout ça, brusquement, se collisionne. L'idée d'en mettre de la couleur. Il se passe que cette galerie, brusquement, a des problèmes financiers et qu'on ne peut pas faire la reproduction en grande taille. Et donc, brusquement, il y a une chose que je voulais faire qui disparaît sous mes pieds. Il y a une autre chose que j'ai commencé, dont je ne sais pas où elle va me conduire. Et puis, il y a aussi la vie quotidienne. Ma vie quotidienne me satisfait pas. Enfin, j'ai à ce moment-là, en 1984, j'ai 40 ans. En 1985, 41. Je me dis, voilà, ma vie, c'est pas tout à fait ça. Je vais devenir un vieux célibataire qui ronchonne, qui a des aventures ici ou là, mais qui s'investit pas dans une relation. Il y a évidemment la question,
voilà, des enfants.
Des enfants, exactement. Voilà, je décide de changer. Et donc, brusquement, je décide de regarder autour de moi et devenir accueillant pour les autres, ce que j'avais pas été quand même pendant un sacré bout de temps. Et puis voilà, ben là, je rencontre une femme, une brésilienne, Leila.
Qui est toujours d'ailleurs votre épouse.
Qui est toujours mon épouse. Nous nous marions en juillet de 86.
Ah, mais donc vous êtes très vite, rapide, oui.
Mais vous savez, l'amour, c'est rapide, hein.
Oui, oui, non, mais vous êtes décidé, c'est
voilà,
fou quand même.
L'amour, c'est rapide. Ça tient pas toujours, mais là, ça tient. Puis il y a des enfants qui naissent. Puis donc, ma peinture change. Je vends très bien la peinture à la manière précédente et très mal la peinture à la manière nouvelle, à tel point que je vends carrément plus. Et donc pendant 3 ans, je vais pratiquement plus vendre, et mon premier enfant naît, et en 90 naît mon deuxième enfant, mais pendant ce temps-là, s'accumulent les dettes, etc. Donc je me trouve endetté, et fin 89, en 90, ce que je fais convainc mes galeristes, François Dietesheim à Neuchâtel,
ouais.
Jean Perrol à Paris, et puis j'ai une offre d'exposition à Bâle, dans un espace ouvert par une entreprise d'horlogerie qui s'appelle Ebel, et ces trois expositions doivent avoir lieu entre le 1er janvier 1991 et la fin juin 1991. Donc je me dis, ben là, il faut que ces trois expositions, je rembourse mes dettes et que je gagne assez d'argent pour pouvoir élever des enfants, simplement. Voilà. Élever des enfants à Paris. Ouais. Et puis, il se trouve que en 89, il y a une énorme crise qui se déclenche sur le marché de l'art à cause de la crise financière asiatique au Japon. Les grands collectionneurs japonais qui alimentaient le marché,
ils les investissent. Ouais.
Voilà, sortent du marché, le marché s'effondre. En même temps, en 1990, il y a la crise en Irak qui commence, bruit de bottes et compagnie. Et début 91, c'est la première guerre du Golfe. Ce qui fait que pendant ces trois expositions,
Que pouic,
ou pratiquement que pouic. Et donc, fin juin 1991, Leila cherche du travail, un boulot, et puis moi aussi. Et je décide d'arrêter la peinture pour 2, 3, 5 ans. Je me disais, ça va durer au maximum 5 ans. Mais enfin, voilà, j'avais quand même le projet d'élever mes enfants. Quand je raconte cette histoire, je dis de manière bourgeoise. Mmh. C'est-à-dire, finalement, dans un confort qui soit le confort que j'ai connu quand j'étais moi-même enfant. Bon, c'était ça, et donc voilà, j'arrête. Et s'il devait s'arrêter au maximum 5 ans, c'est arrêté 20 ans. Et pendant ces 20 ans, il s'est produit toutes sortes d'événements. Absolument.
Mais là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce que vous avez plein d'outils que vous pouvez réactiver. Vous pourriez redevenir sociologue, peut-être, ou enseignant, ou que sais-je.
Au départ, l'idée, c'était quand même de redevenir enseignant. enseignant de sociologie. Vous savez, quand vous quittez l'université, elle vous fait plus de cadeaux.
Oui.
Donc moi, j'ai trouvé des boulots ici ou là, mais chaque fois que je présentais ma candidature à un poste, j'étais classé deuxième, ce qui n'est pas du tout un bon poste. Et puis, j'avais trouvé aussi un boulot intéressant dans une école supérieure de design. Mais pareil, quoi, c'est impossible de se faire engager. Et puis, donc je faisais tous les boulots qui se présentaient de façon à pouvoir quand même survivre en me disant, bon, ben, au bout d'un moment, la crise va s'arrêter. Et la crise s'arrêtait toujours pas. Et puis la crise s'arrêtait pas pour moi. Puis il se trouve qu'en 1992, je me retrouve à Genève chez un ami qui était un de mes collectionneurs. On se trouve à table en été dans son jardin. Il avait un jardin à Carouge, un beau jardin. C'est un type qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a soutenu. Il m'a acheté beaucoup de peintures. Il m'a soutenu aussi en ayant en échange des tableaux. Et puis là, on est à une table. Et puis, je raconte mes histoires sur le marché. J'explique comment ça marche. Et à cette table, il y a une dame qui s'appelle Joëlle Kunz, qui était une amie que j'avais rencontrée quand je passais encore à Genève ou après 1968, et puis que j'avais croisée quelques fois à Paris parce que elle passait voir mes expositions.
Et les journalistes aussi.
Et les journalistes. Et puis elle me dit, elle était rédactrice en chef d'un nouveau journal qui venait de se créer, qui était le Nouveau Quotidien. Puis elle me dit, mais c'est intéressant ce que tu racontes sur le marché, si tu le racontais dans notre journal. Et donc j'ai écrit mon premier article.
Mais c'est quand même cocasse, hein.
À cause de ça, oui, c'est cocasse, ça vous pouvez le dire. Puis ensuite, j'ai écrit un ou deux, trois articles. C'était une époque où quand même on avait une certaine fantaisie journalistique. Puis il y avait, c'était l'année de la Documenta de Cassel, la très grande exposition internationale d'art qui a lieu tous les 5 ans. Puis il me dit, la rédaction en chef du Nouveau Quotidien me dit, mais si t'allais à Cassel nous faire un reportage. Et donc, au mois de septembre 1992, je pars pour Cassel. Je passe la frontière allemande pour la première fois de ma vie parce que j'avais fait le vœu de ne pas y aller. Voilà, je me retrouve en Allemagne. L'Allemagne n'est pas du tout comme je croyais. C'était un pays beaucoup plus irrationnel et bordélique que je le pensais. C'était en même temps le grand période de migration des populations des pays de l'Est. Donc il y avait des campements absolument partout. Je me souviens de la place de la gare à Francfort, absolument couverte de bivouacs avec des odeurs de nourriture. Enfin, c'était absolument incroyable. Je me retrouve à Cassel. Et je découvre ce qu'est l'art contemporain, ce que je connaissais
pas. Anish Kapoor, par exemple.
Ouais, Anish Kapoor.
Le grand artiste indien.
Bruce Nauman.
Bien sûr.
Voilà.
Gordon Matakla.
Matakla. Et donc, je me trouve brusquement jeté là-dedans. Et comme ça correspondait, ça m'amusait assez de travailler tout en m'amusant, tout en m'intéressant aux choses qui m'intéressaient. Ben, j'ai fait comme on fait, hein. J'avais mis le pied dans la porte du journalisme. Ben, j'ai mis mon pied de plus en plus et puis j'ai écrit de plus en plus.
Mais justement, c'est ça, l'écriture advient soudain, cette fameuse écriture qui
oui,
est à l'origine. Sauf
que c'est pas l'écriture romanesque.
Alors,
l'écriture du sociologue. Alors, pour cette écriture-là, j'ai une facilité déconcertante. Alors ça me sort, il y a aucun problème. Mais c'est pas l'écriture dont je rêvais. J'avais pas le projet quand je voulais écrire, je voulais pas écrire comme ça. Je voulais écrire comme fonctionnent les tarots, comme fonctionne la peinture. Magique. Hein, magique. C'était pas de l'écriture magique. Bon. Il se trouve que quand même, j'ai grâce à ça pu visiter des milliers d'expositions. J'ai pu en parler. J'ai pu mettre à niveau ma connaissance du monde de l'art local et international. J'ai appris énormément de choses. Mais ce projet, qui était un projet qui durait 5 ans. Ben, en 1997, le Nouveau Quotidien a fusionné avec le Journal de Genève. J'avais pas trop de place dans ce nouveau projet parce que la rubrique culture devait être confiée aux gens qui venaient du Journal de Genève. Donc je me suis retrouvé finalement sans attribution. J'étais pigiste. Mais finalement, on m'a proposé la rubrique sportive.
Au Temps,
dans le futur journal qui s'appelait Le Temps. Donc brusquement, je suis devenu chef de rubrique sans avoir jamais été un vrai journaliste. Et puis, c'était la rubrique sportive.
Mais Alors
là, ça m'amusait parce que le sport m'a toujours intéressé. J'ai toujours suivi le sport. Et puis, j'avais un autre rêve d'enfance et je me suis dit que j'allais enfin pouvoir le réaliser. Un de mes rêves d'enfance, on s'en souvient peut-être pas, mais il y a un stade à Lausanne qui s'appelle le Stade Olympique, comme chacun sait.
Ouais.
Et ben, le Stade Olympique s'appelle Stade Olympique parce que Lausanne avait déposé sa candidature pour les Jeux Olympiques de 1960. Et avant 1960, j'avais nourri un rêve, c'est d'aller aux Jeux Olympiques de Lausanne. Donc il m'a fallu attendre 1998, c'est-à-dire 38 ans plus tard, pour assister à une compétition mondiale de sport. Et donc j'ai accepté cette rubrique Donc je suis devenu journaliste au Temps. Là, j'ai passé dans différents secteurs. Je suis devenu chef de la rubrique culturelle pendant un certain temps. Ensuite, j'ai été correspondant à Paris. Et donc, j'ai fait mon travail de journaliste. Et je pense toujours, quand j'y repense maintenant, je me dis, c'est incroyable, j'ai fait semblant d'être journaliste pendant presque 20 ans. Je mets journaliste dans mon curriculum vitae, mais fondamentalement, je pense que je ne suis pas vraiment un journaliste.
Mais alors, qu'est-ce que vous êtes ?
J'arrive bien à faire le journaliste.
Ouais, ouais.
Mais on n'a pas obligé d'être garagiste pour tenir un garage. Hein, voilà. Donc moi, j'étais journaliste comme quelqu'un qui n'est pas journaliste, mais qui arrive à le faire.
Mmh.
En revanche, j'ai appris un nombre incalculable de choses qui me servent encore aujourd'hui et qui m'ont servi quand j'ai commencé à me remettre au dessin.
Alors justement.
Projet que j'avais jamais perdu de vue. Alors justement, c'est pendant 20 ans, tout le monde me demandait, t'as arrêté le dessin, c'est incroyable. Et tout le monde renvoyait cette image, qui est quand même une image assez pénible. Oui, un artiste, c'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de faire de l'art.
Ouais, la nécessité intérieure.
Voilà, la fameuse nécessité intérieure. Mais moi, la nécessité intérieure, c'était d'élever mes enfants de manière convenable pour qu'ils fassent de belles études, qu'ils soient heureux. J'avais pris des responsabilités. J'avais des responsabilités par rapport à mes enfants, par rapport à Leïla. C'était une chose à faire. Et d'ailleurs, en plus, j'adorais ça. Et puis, cette nécessité, si vous voulez, je la ressentais, mais j'allais pas la mettre sur la table, parce que j'ai jamais, pendant toute cette période, donc 20 ans, pensé que j'avais arrêté de faire de la peinture.
Infusait de toute manière en permanence.
Non, j'ai pensé que j'avais interrompu quelque chose provisoirement.
Ouais.
J'ai jamais pensé que c'était définitif. Mmh. J'ai jamais pensé que c'était un tournant dans ma vie. Et donc, j'ai toujours pensé que, en faisant ce métier, je devais être attentif à ce qui, dans ce métier, me préparait à refaire de la peinture. Hein? C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de faire le plus de critiques d'art possible. J'ai toujours eu en tête l'idée de continuer à construire l'idée que je me faisais de l'art par les articles que je faisais et par les visites que je faisais dans les expositions et par la compréhension que ça me donnait de l'histoire de l'art. Et donc, résultat, quand je m'y suis remis,
2009.
J'ai pu réutiliser, en 2009, ce que j'avais appris comme critique d'art.
Bon, ce qui est très intéressant, c'est que le livre que vous avez sorti à la fin de l'année dernière, sur le retable de Konrad Witz, que l'on peut voir au Musée d'art et d'histoire de Genève, une œuvre qui vous a vraiment passionné depuis des décennies, une œuvre qui représente la pêche miraculeuse sur la rade de Genève, au fond, et on reconnaît, c'est un paysage qui date du milieu du XVe siècle, c'est tout à fait étonnant. Eh bien, c'est grâce, finalement, à votre métier de journaliste que vous allez pouvoir basculer dans ce monde de Konrad Witz, d'une certaine façon, puisque vous allez suivre la restauration de ce retable. C'est quelque chose qui amène de l'eau à votre moulin artistique. Et le livre que vous proposez, c'est une enquête très intéressante, mais qui est aussi appuyée sur une production de dessin qui émet des hypothèses et en même temps qui sont très beaux à regarder.
Quand j'étais chef de la rubrique culturelle, je disais toujours à mes collègues, quand vous écrivez un article, il faut dire ce que vous avez vu, il faut réfléchir à ce que vous avez vu, mais ne perdez jamais de vue ce que vous allez faire pour vous-même. Hein. Et moi, pendant toutes ces années-là, j'ai écrit pour le journal, j'ai écrit pour Le Temps, j'ai écrit pour une revue française dans laquelle je tenais une chronique mensuelle. J'ai toujours écrit en me disant, qu'est-ce que je garde pour moi ? Dans cette visite, dans cette expo, il y a ce que je donne aux lecteurs, ce que je partage avec les lecteurs, et il y a ce que je garde pour mon propre travail. Et ça, d'une certaine façon, le type idéal de ça, c'est ce qui s'est passé avec Konrad Witz. 2011 et 2012, le musée d'art et d'histoire de Genève décide de restaurer le retable de Konrad Witz. Je suis encore journaliste. Comme cadeau, finalement, de fin de carrière, on m'autorise à faire une série d'articles sur cette restauration. Je fais une quinzaine de pages. Donc, j'approfondis mes rapports avec une œuvre d'une façon absolument exceptionnelle dans le travail de journalisme. Je la connais très bien. Je sais pas du tout ce qui va advenir. À ce moment-là, j'ai pas vraiment recommencé à faire du dessin, à refaire de l'art. Je suis encore journaliste. Et puis ce truc-là va me suivre. Et en 2019, c'est-à-dire 7 ans plus tard, j'entreprends un travail de dessinateur systématique, qui est une recherche d'histoire de l'art par l'intermédiaire du dessin, que j'appelle « Variation Konrad Witz ». Rappelons que j'ai fait écouter la musique des Variations Diabelli, donc « Variation Konrad Witz » comme les Variations Diabelli, hein, des variations. Et donc... ça devient le substrat de 3 années de travail de dessinateur. Alors, le passage, c'est pas fait de façon raisonnable, planifiée, régulière. C'est le fruit d'une série de circonstances. Comme les circonstances ont fait que j'ai rencontré Conrad Wietz, les circonstances ont fait que c'est devenu le cœur de mon travail d'un livre et d'une série de dessins, d'une centaine de dessins.
Mais le dessin, vous vous dites dessinateur et plus peintre, pour quelle raison ?
Ben parce que je fais plus de peinture. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je fais du dessin, c'est plus simple. Alors la question c'est comment j'ai décidé de faire du dessin plutôt que de la peinture.
Alors, oui, c'est ça.
Ben c'est une raison qui est assez terre à terre pour tout dire. Jusqu'en 1996, de 81 à 96, c'est-à-dire pendant 15 ans, j'ai habité un très grand local qui était mon atelier. C'est la période pendant laquelle je suis passé de la vie d'artiste peintre à la vie de sociologue journaliste. En 1996, le propriétaire de ce local, qui était un collectionneur genevois, me dit, eh ben écoute, tu fais plus de peinture, j'ai besoin d'argent, il faut que je vende ce local, tu dois partir. Voilà, bon. Puis effectivement, je faisais plus de peinture, il se trouvait pas, j'étais un peu en rage. Leïla m'a dit, mais écoute, on a eu la chance de vivre là pendant 10 ans, tu vas pas commencer à te plaindre. Bref, et donc on a déménagé, sauf que déménager d'un local de 230 mètres carrés dans un local de 120, ce qui est quand même beaucoup pour Paris, 120 mètres carrés, ça laisse en plan pas mal de choses. Et donc j'ai dû mettre dans un garde-meuble
toutes
les œuvres que j'avais pas vendues, des 20 années de peinture.
Toujours maintenant, il
existe. Elles sont toujours dans un garde-meuble. Okay. Elles sont toujours emballées. C'est 25 mètres cubes. L'année dernière, on a décidé d'aller voir si ça existait vraiment. On a téléphoné. Pendant plus de 25 ans, j'avais même pas vu. Je savais que je payais la facture chaque mois de la location, mais j'avais jamais plus vu. Donc on allait voir, elles existent vraiment, elles sont vraiment dans ce garde-meuble, dans des containers en bois, emballés. On a vu, j'ai pris des photos et puis je suis rentré chez moi. Donc quand j'ai, en 2009, j'ai vu que j'arrivais à l'âge de la retraite, j'avais obtenu, pour des raisons financières, 3 ans de prolongation de contrat. La limite, c'était novembre 2012. Et donc je me suis dit, si tu veux te remettre au dessin, mon petit gars, t'as plus touché un crayon, pas plus touché un pinceau, il faut commencer à t'y remettre. Mais qu'est-ce que j'allais faire ? Et j'ai recommencé à faire du dessin. Et donc, je me suis dit, le dessin, j'aurais pas ce problème de stockage. Mmh. Ça, c'est la première chose, j'aurais pas ce problème de stockage. Et j'ai recommencé à dessiner avec prudence, en faisant des petits croquis, puis j'ai réappris le métier parce que...
Oui, mais noir-blanc, vous passez
alors,
quand même, ça c'est fou.
Noir-blanc, il y a plusieurs raisons, il y a deux raisons. La première raison, c'est une raison qui est liée à mon tempérament de chercheur. Je savais que j'allais continuer à travailler sur ce que j'appelle les formes simples de l'espace. Et donc, je me disais, j'avais une certaine expérience de la couleur, j'avais une certaine expérience comme critique de la manière dont les artistes, en posant trop de problèmes à la fois, s'interdisent de les résoudre. Je me suis dit, je vais essayer de limiter le nombre de variables. Et donc, je me suis dit, je ne savais pas que ce serait aussi constant, mais je vais commencer par faire du noir et blanc. Ça, c'est la raison qui est interne à mon travail. La deuxième raison, c'est que étant critique d'art, j'ai rencontré des centaines et des centaines d'œuvres que j'appelle les œuvres de la bonne intention. Ce sont les œuvres qui dénoncent les turpitudes de l'humanité, et en particulier...
Qui témoignent du monde de cette manière-là.
Qui témoignent avec toujours un ton moralisateur, mais qui témoignent surtout depuis quelques années de la destruction du monde par l'humanité elle-même, c'est-à-dire des œuvres sur les catastrophes écologiques. Sauf que la plupart de ces œuvres sont des vidéos, qu'elles ont voyagé en avion entre les différents musées. Et donc je me suis dit, quel est l'outil de travail le plus sobre?
Le moins cher.
Le moins cher, le plus facile à utiliser. Et j'ai décidé, à l'époque, j'utilisais de la pierre noire, c'est-à-dire du charbon minéral. Puis ensuite, j'ai utilisé du charbon végétal, du fusain. Et donc, je me suis dit, noir et blanc, fusain, papier, c'est le modèle de la sobriété à la fois politique et aussi de la sobriété, j'irais presque technique. C'est-à-dire, c'est ce qui permet le mieux de maîtriser les différents outils qu'on utilise.
Laurent Wolf, on arrive à la toute fin de ce dernier épisode de cette semaine passée en votre compagnie. Il faut qu'on imagine peut-être des vies à peu près avec 10 épisodes. Ce serait peut-être on ferait plus.
Mais on dit la vie à peu près, donc à peu près finie.
À peu près finie, voilà. Vous nous parliez dans ce moment de l'engagement. Vous avez aimé être père, subvenir bourgeoisement, comme vous le disiez, à l'éducation de vos enfants pour qu'ils puissent être bien. Qu'est-ce que vous leur avez transmis comme valeur, comme désir?
Écoutez, il ne faut jamais se vanter d'être un bon père.
Voilà,
et il faut pas. Écoutez, j'ai jamais été que moi-même. Hein, et j'étais avec Leïla un couple quand même assez qui donnait assez de liberté. Leïla brésilienne, mère Mai de Santos, pratiquant l'Umbanda, culture catholique. Moi, juif suisse, chaudefonnier, un peu protestant dans les comportements. Territoire, ce petit pays parfait, la Suisse. Ce moyennement grand pays bordélique, la France, et ce pays absolument chaotique, le Brésil, c'est un horizon. Puis dans cet horizon, il y a ce qu'on est. Alors bon, je ne vais parler que pour moi-même, parce que je pense qu'ils doivent beaucoup à leur mère, et je ne sais pas ce qu'ils me doivent à moi, mais je pense qu'on fait ce qu'on peut. Donc je n'ai pas fait plus que ce que je pouvais. Je n'ai jamais fait d'effort. Si, j'ai fait l'effort. On fait l'effort de se lever le matin. On fait l'effort de les amener à l'école. On fait l'effort de gagner l'argent de la famille, père et mère, hein, tout le monde. Ça, c'est des efforts. Mais sinon, pour le reste, on fait que ce qu'on peut. Moi, je me suis contenté d'être moi-même. Alors évidemment, on peut raconter. Je les emmenais au Louvre. Oui, bien sûr, je les ai emmenés au Louvre. Je leur faisais écouter de la musique. Oui, bien sûr, je leur faisais écouter de la musique. Mais c'est pas l'essentiel. Moi, je vais vous dire. Je crois que ce que j'aurais appris, je jouais à un jeu avec eux. On jouait à ce jeu au Brésil, à Cabo Frio, qui est une petite ville maritime, petite, il y a 150 000 habitants, à une centaine de kilomètres de Rio de Janeiro, là où ma belle-sœur avait une maison de plage. Et quand on se retrouvait là-bas, on jouait à un jeu qui s'appelle le jeu de l'allumette. Ce jeu, ça consiste à, chaque fois qu'on arrive à un carrefour, à jeter une allumette et à aller dans la direction qui est indiquée par le bout en souffle.
Ouais.
Et puis donc, on jouait des heures avec cette allumette. C'était une aventure fantastique. Moi, je savais que statistiquement, on avait peu de chances de s'éloigner beaucoup de l'endroit d'où on était parti, que c'était le tirage au hasard nous conduisait plutôt à rester au même endroit. Mais eux, ils pensaient que c'était une aventure extraordinaire. Eh bien, je pense que je les ai éduqués comme ça. Et maintenant, ils savent très bien qu'avec le jeu de l'allumette, on s'éloigne pas beaucoup de sa maison.
Merci beaucoup, Laurent Wolf, d'avoir partagé avec nous votre vie à peu près. Et je crois que justement, en parlant d'enfants, vous avez envie de terminer en musique avec un morceau.
Un morceau.
Que votre fils.
Oui,
réalise.
Mon fils. Parce que vous savez, j'ai un fils qui écrit de manière absolument merveilleuse, qui est Valentin, qui est une espèce d'aventurier du monde, un voyageur. C'est un type qui travaille à distance à Paris, qui a organisé sa vie en travaillant pour une entreprise parisienne de commerce équitable, mais il a trouvé le moyen de pouvoir travailler pour cette entreprise de n'importe quel endroit du monde. Il est actuellement au Brésil, il vit au Brésil, à Rio, mais il voyage énormément, il ramène des choses extraordinairement poétiques de partout où il se trouve. C'est un spectateur du monde, un peu un arpenteur du monde dont j'ai parlé dans une de ses émissions. Et puis mon autre fils, un jour, j'ai découvert qu'il avait créé un groupe de musique. Et puis j'ai suivi cette histoire avec stupéfaction. Il a commencé par jouer dans des petits bistrots. Et puis un jour, ils ont gagné le prix du groupe, d'Île-de-France. Puis de fil en aiguille, ce groupe a commencé à se faire connaître, à faire des concerts. Ils ont quitté des salles où il y avait 20 personnes. La suivante, c'était 500. La suivante, c'était 1000. Ils se sont retrouvés sur la grande scène des festivals d'été. Ils ont composé de la musique pour des films. Ils ont sorti plusieurs disques. Il y a toute une mécanique absolument irréaliste qui s'est enclenchée autour de ça. Ce fils... ce destin m'a toujours extraordinairement étonné. Il est à la fois musicien, mais en même temps, il est chercheur au CNRS. Donc, il conduit une double vie. Il est père de famille, triple vie. bref, ce groupe s'appelle Feu Chatterton.
Et, ouais.
Et finalement, c'est toujours un cadeau d'aimer ce que font vos enfants.
Qu'est-ce qu'on écoute?
On écoute La mort dans la pinède.
Merci beaucoup, Laurent Wolf. Bonne suite à vous.
Merci beaucoup. Thank you.
sur cette côte d'azur. Le baigneur palmé pède ignore tous les secrets de plage où l'on étend. Nos 17 ans, tu m'as dit oui, mais tu n'étais pas sûr. Je te conduite dans la pinède. C'est en dessous des arbres que l'on joue, que l'on étend. Nos 17 ans. Toutes les premières fois louche, l'amour est maladroit, gauche, dans le bois tourne à droite, gauche, c'est bien ce que tu crois. Toutes les premières fois louche, l'amour est maladroit, gauche, dans le bois tourne à droite, gauche, c'est bien ce que tu crois, ça. Que souvent ça les soit, qu'on le fasse dans les bois, dans la chambre d'hôtel ou dans l'aube du soir. Toutes les premières fois, il faut que l'on sache des choix, se perdre mieux, vous fermer les yeux. Le 16, 3, 4, de compte française. Oh, 3, 4, de compte française. Il faut que l'on sache des choix, se perdre mieux, vous fermer les yeux. 3, 4, de compte française. De compte française. Tu étais malin dans tes godasses, dans tes baskets converses. Et je priais la godesse de la promenade des Anglais. D'abord je paradais, puis tu appréhendais mes audaces, d'un geste tu les chassas. Comme les mouches roses au-dessus de nos têtes et mes largesses. Tu les mises à l'index, c'est déjà sale, Alexa. C'est déjà sale, au café du commerce. Voilà du grand moudre, le grand amour commence. Par un coup de foudre, et le vent désertique a mis le feu aux poudres. Pendant qu'on s'aime, crépite les arbres blancs. Entends-tu la violence sourde? C'est la mort que les flammes sèment. Ressens-tu les relents? Toutes les premières fois louche, l'amour est maladroit, gauche, dans le bois tourne à droite, gauche, c'est bien ce que tu crois. Toutes les premières fois louche, l'amour est maladroit, gauche, dans le bois tourne à droite, gauche, droite, gauche, c'est bien ce que tu crois, ça. Que souvent ça déçoit, qu'on le fasse dans les bois, dans la chambre d'hôtel ou dans l'aube du soir. Toutes les premières fois, il faut que l'on sache les choix, se perdre mieux, vous fermer les yeux. Le 16, 3, 4, de compte princesse. Oh, 3, 4, de compte princesse. Il faut que l'on sache les choix, se perdre mieux, vous fermer les yeux. 3, 4, de compte princesse. Le compte français. Et c'est la mort de la pilote. Le cœur s'en va, c'est la fin aussi. Le cœur s'en va, c'est la fin aussi. Et c'est la mort dans la pinède. Le cœur s'en va, c'est la fin aussi.